mal souvenir d'une pénitence. Quartier d'hommes fous, quartier des grands criminels, condamnateurs de la folie qui se promène. Une fois encore, c'est bien fini pour lui. 10 ans sous-sol, 10 ans silence. Comme un face à face, le sang d'une trace. Trace de l'encre, les crises qui se passent. Redoutable, c'est quatre génial. Accélération cérébrale.
Canal Sud, nous vous écoutons.
Allô, oui. Bonjour, c'est Julia Moacaprez pour Les Rois Vagabonds.
Bonjour.
Bonjour.
Excusez-nous pour le petit souci. Nous venons d'entendre au téléphone Julia Moacaprez de la compagnie Les Rois Vagabonds, pardon, et c'est pour le spectacle Concerto pour deux clowns qui sera joué du mardi 11 au vendredi 14 décembre à 20h30 au Centre culturel de Ramonville-Sainte-Agne. C'est bien cela. Jusqu'à présent, nous avons tout juste.
Tout à fait, oui.
Donc, vous avez créé cette compagnie avec... ça y est, je cherche son nom. Je l'ai noté,
avec
pardon.
Igor Selem,
voilà. Et donc, c'est ce spectacle que vous produisez, que vous avez conçu tous les deux et que vous jouez. Tout d'abord, pouvez-vous nous parler de votre amour de l'art clownesque?
Oui, volontiers.
Comment tout cela s'est fait, puisque vous faites aussi du mime, enfin, vous avez beaucoup de cordes, si je puis dire.
Oui, oui, c'est vrai qu'on s'est retrouvés avec Igor Selem, donc quand on a créé Les Rois Vagabonds, tous deux avec un bagage très éclectique de plein de disciplines. Moi, je venais beaucoup de la musique classique, du cirque, de la danse.
C'est-à-dire que vous avez une formation super complète, alors?
Oui, c'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup d'écoles. J'ai fait le conservatoire en violon classique. J'ai fait une académie de danse en Hollande. Et puis, j'étais élève au Circus Center à San Francisco, aux États-Unis.
Mm-hmm.
C'est vrai que j'ai beaucoup pratiqué depuis le plus jeune âge, plein de disciplines. Et puis, Igor, lui, il s'est plus formé sur le tas. Il a travaillé avec des compagnies de théâtre gestuelles. Il venait plus du jazz, du blues, avec des cuivres qu'il joue, lui. Et puis, on s'est retrouvés, c'est vrai qu'autour de l'art de clown. Et moi, je dis toujours que je suis musicienne, acrobate, danseuse, mime, mais c'est le public qui me fait clown.
D'accord.
Parce que je pense que c'est vraiment une conception que nous avons du clown, qu'en fait, on existe en tant que clown que grâce au public.
Oui. Vous pouvez nous expliquer cela, puisque vous le dites dans le dossier de presse aussi, oui, qu'il y a une interaction comme ça très forte entre vous et le public.
Oui, bah, pour moi, en fait, le clown, il existe vraiment grâce à ce regard que le public apporte et même par rapport, il existe grâce à l'interaction, c'est-à-dire qu'on casse complètement ce quatrième mur qui est un mur imaginaire qu'on utilise
oui,
dans le langage
oui.
du théâtre mm-hmm. qui est entre la scène et le public. Et c'est vrai que quelque part, c'est là où on vient vraiment, on est dans cette plus dans le clown du cirque en fait, qui a toujours joué dans la piste et qui était mm-hmm. là ce jour-là, ce soir-là avec ce public et qui ne racontait pas une histoire qui se passait ailleurs. Mm-hmm. Et je pense qu'on s'inscrivait vraiment dans cette famille de clowns où en fait on donne complètement une partition au public en fait mm-hmm. dans la construction de notre spectacle. Le public c'est un vrai partenaire mm-hmm. et il est à l'origine de certaines de nos actions mm-hmm. donc s'il ne réagit pas ça va être compliqué pour nous
j'imagine.
De poursuivre ce qu'on a prévu de poursuivre. Donc c'est dans ce sens-là où il est vraiment pour nous essentiel, ce public. Et des fois même, on dit on danse avec le public. Mm-hmm. C'est vraiment un trio, presque mm-hmm. un duo de clowns avec mm-hmm. un public.
Mm-hmm. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre parcours et du parcours aussi de votre compère, pour que nous comprenions mieux comment vous créez vos spectacles ?
Oui, en fait, on s'est rencontrés, donc on a créé la compagnie en 2008 avec Igor Selem, et puis on a commencé à travailler sur Concerto pour deux clowns en 2010. Mm-hmm. Et depuis, on a fait plus de 600 représentations dans 20 pays différents.
Et oui, c'est une tournée internationale.
C'est un spectacle qui évolue énormément et pour nous c'est aussi un peu l'essence de l'art du clown, c'est-à-dire que c'est pour nous c'est assez long en fait de construire du clown parce mm-hmm. qu'on prend pas un texte qui existe, c'est,
oui, bien
c'est vraiment
sûr.
On travaille avec ce qu'on sait faire et ce mm-hmm. qu'on est, donc notamment par exemple la place de la musique classique mm-hmm. elle est forcément
elle est prépondérante
très
oui mm-hmm.
parce que moi voilà c'est un moi j'ai fait du violon classique pendant 15 ans mm-hmm. et pour moi c'est vraiment un langage très important et puis c'est une passion aussi
oui,
donc ma clown forcément je vais partir de ça et par exemple la musique classique du coup ça nous permet d'avoir un prétexte très 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 simple en fait d'être ce soir avec ce public par exemple à Ramonville mm-hmm. voilà on vient présenter un concerto de musique classique mm-hmm. et puisque nous sommes des clowns forcément après ça se passe pas
comme prévu
comme un concert de musique classique mm-hmm. et puis en fait c'est là où aussi je pense que c'est vraiment un spectacle très multidisciplinaire dans le sens où bah, comme tout spectacle de nouveau cirque, on mélange vraiment, on mélange les matières et les techniques, donc mm-hmm. on se sert beaucoup aussi de nos techniques d'acrobates, de danseurs, et puis tout ça vraiment au service de l'art du clown en fait, et pour moi, oui, l'art de clown c'est vraiment c'est cette relation avec le public qu'on cherche, mm-hmm. même si évidemment c'est aussi une relation entre deux clowns et notamment mm-hmm. dans notre spectacle, donc nous on revisite quelque part aussi vraiment ce duo traditionnel du clown blanc
et l'Auguste et le d'accord.
Et en fait, je pense que ça, c'est vraiment c'est un thème très très universel d'ailleurs et même très actuel en ce moment avec tous les bouleversements qu'on vit en ce moment dans notre société. Mm-hmm. C'est vraiment, je pense que le clown blanc et l'Auguste, ça se passe beaucoup autour du pouvoir, mm-hmm. autour de la hiérarchie. Mm-hmm. Et en même temps, le clown, par le rire, en fait, il a le pouvoir d'abolir.
Désamorcer.
Et d'abolir cette séparation de classe, si on peut dire comme ça. Et puis on ramène mm-hmm. à un niveau simplement humain, où d'ailleurs un public très, très hétéroclite, très mélangé peut vraiment s'unir aussi, mm-hmm. je pense, autour de la figure du clown.
Se rencontrer, oui, partager un moment.
Exactement, oui. Mm-hmm.
D'accord. Puisque vous dites que pour vous, ce qui est essentiel, en fait, c'est cette interaction avec le public. Puisque vous avez fait, vous avez joué dans différents pays, j'imagine aussi qu'en fonction des endroits, le spectacle change un peu de visage.
Oui, c'est sûr. Ouais, c'est d'ailleurs très très enrichissant pour nous de pouvoir voyager avec, parce que donc c'est un spectacle sans parole, mm-hmm. ce qui permet
d'être compris par tout le monde.
Voilà, de jouer dans des
pas de barrière de langue.
Pas de barrière de langue et en même temps En fait, c'est un travail très physique où le lien entre les deux clowns et le lien avec le public, ça se passe dans l'action et je pense que ça crée un langage très universel qui permet à chacun de projeter sa propre histoire. Et en même temps, bien sûr, on note des différences de culture. D'ailleurs, des fois, c'est pas forcément comme on s'imagine, comme on attend, c'est pas forcément dans les pays que ça réagit comme on s'était attendu. Mais je pense qu'il y a quelque chose, il y a une essence vraiment très universel où on se rend compte, oui, on est partout pareil, on est fait de la même chose, et en même temps il y a des
différences
culturelles, des regards sur la, notamment sur l'hiérarchie, des regards sur l'amour qui sont pas forcément les mêmes, des regards aussi sur hommes et femmes, puisque nous sommes des clowns qui ne jouons pas du tout a priori sur le féminin et le masculin, et pourtant il y a des fois des réactions, il y a des regards qui changent en fonction du pays, tout à fait.
D'accord. Et donc pour ce spectacle-là, Concerto pour deux clowns, que vous avez beaucoup joué, quelle a été l'idée motrice au départ?
L'idée motrice a été de créer un spectacle de clowns. Et c'est vrai que on a commencé par dans cette histoire de clown de cirque, on a vraiment commencé à faire des numéros en fait comme avec ce qu'on sait faire. Donc avec la musique classique, avec l'acrobatie, en trouvant des surprises, etc. Et au fur et à mesure, donc ça va faire 10 ans bientôt qu'on joue ce spectacle, qui a énormément évolué forcément, qui a aussi changé de situation technique, c'est-à-dire qu'on a commencé en plein air avec un palc, on a eu un chapiteau pendant 5 ans, on a fait Avignon la première
en 2013,
après en 2016, donc on est rentré dans des salles, on a profité aussi des possibilités techniques, des
bien
salles,
sûr,
et on a fait de la machinerie, etc. Et je pense que, du coup, le spectacle, au fur et à mesure de ces 10 années, il a pris une dimension dramaturgique. Et d'ailleurs, c'était un clown camarade qui nous avait dit il y a 10 ans, commencez d'abord par créer des numéros, et dans 10 ans, vous raconterez une histoire.
D'accord.
Et c'est vraiment quelque chose qu'on a pu vivre, parce que le clown, il part pas dans des idées intellectuelles, il va faire, en tout cas le clown de situation, après il y a plein de
il n'y a pas de façon de l'aborder, oui.
De courants de clowns très très différents, et tous d'ailleurs très intéressants. Nous, on est vraiment dans un registre de clown de situation, sans parole. Et donc, on réagit physiquement à l'autre et au public. Et donc, ça va créer une histoire que nous, on n'a pas prévue. Presque malgré nous, il y a une histoire qui s'est créée dans le, et notamment je pense que dans ce que moi je ressens dans la dramaturgie, c'est que c'est au début du spectacle, il y a peut-être ce duo du clown blanc et de locuste qui est un peu caricatural, qui nous donne beaucoup d'action, de pouvoir, de ramener chacun à soi-même. Et puis, au fur et à mesure du spectacle, dans ce qui leur arrive à ces deux clowns, en fait, cette hiérarchie, justement, s'estompe. Et on va trouver une égalité entre les deux et un besoin de l'un à de l'autre. L'un de l'autre. Et du coup, il y a quelque chose qui va finir. Voilà, il y a un vrai voyage que ces deux clowns font et que le public, du coup, peut faire avec eux.
D'accord. Et donc, puisque la musique a beaucoup d'importance, notamment la musique classique, pouvez-vous nous expliquer en fonction de quels critères choisissez-vous les extraits musicaux, enfin, les jouez-vous, puisque vous jouez du violon, c'est bien cela?
Voilà, oui, je joue du violon, je joue des castagnettes et je fais du chant lyrique. Et puis Igor, lui, il joue de la trompette et du tuba. Et c'est vrai que, en fait, je pense que chaque morceau qu'on a choisi dans ce spectacle, c'est des morceaux pour lesquels on a profondément une passion. Ce sont pratiquement que des morceaux de musique classique. Et après, c'est vrai qu'il y a malgré nous, il y a beaucoup de morceaux qui sont très connus.
Mmh.
Et
de Vivaldi, ça, notamment.
Notamment de Vivaldi, de Bach. Mmh. On a aussi on a Ravel. Voilà, on traverse un peu toute l'histoire
de la musique classique.
Mmh. Voilà, on a Schubert. On traverse un peu toute l'histoire, je pense, par rapport mmh. aux siècles de la musique classique. Et ce sont beaucoup des morceaux, en fait, qui sont assez connus mmh. par tout le monde, qui font partie peut-être même d'un bagage culturel.
Oui.
Et c'est vrai que c'est une force, je pense, dans le sens où le public va reconnaître le morceau. Et du coup, ça va mettre le spectateur dans un espace de bien-être, mmh. de confort, en fait. C'est une zone de confort quand on reconnaît un morceau mmh. de musique, même si on ne sait pas qui l'a écrit, mais voilà. Ça fait
oui,
bien
à l'oreille, oui, voilà, oui.
De notre culture. Mmh. Et nous, ça nous permet, en fait, de l'emmener ailleurs.
Oui, oui.
Et du coup, pour nous, ça n'est pas été un critère de choix de base, mais on se rend compte au fur et à mesure de toutes ces représentations que c'est une vraie force, en fait, que les gens, ils reconnaissent, et du coup, ils sont dans une zone de confort où on va pouvoir s'envoler ensemble et partir dans un imaginaire et aller ailleurs.
Mmh, ça, oui, ça permet en fait de mieux vous rencontrer plus rapidement peut-être.
Tout
le
à fait,
fait
oui. Uh-huh. Oui, je pense ça. Et j'ai une petite anecdote comme ça que quand j'avais 20 ans et je faisais du violon classique
oui.
et je faisais un voyage en Italie et je faisais de la rue.
Uh-huh.
Et je travaillais avec une chanteuse américaine et on faisait des créations mmh. et on jouait dans la rue et puis la majorité des passants ils passaient.
Oui,
et,
c'est le cas de dire.
Pas. Dès que je jouais les quatre saisons de Vivaldi, les gens ils se tournaient et on s'est rendu compte, ah mais là on va pouvoir commencer à rentrer en relation avec eux.
Et oui, c'était la magie qui opérait, c'était Vivaldi.
Voilà, du coup, on allait pouvoir après les emmener dans nos créations et dans des musiques pas connues, mm-hmm. mais je pense que c'est vraiment une...
C'était le déclic.
C'était un moyen d'accrocher mm-hmm. aussi et puis aussi justement de mettre les gens dans une reconnaissance que mmh. eux ils connaissent en
bien
fait
sûr,
eux, ils
oui.
reconnaissent donc mmh. on les valorise aussi mmh. quelque part dans leur présence
mmh. oui en fait vous ça faisait écho à leur culture à leur
tout à oui tout à fait à leur culture et puis quelque chose de je pense à aussi un partage bien. Commun qu'on mmh. a mmh. Qu'on connaît, qu'on ne sait pas forcément, mais qu'on mmh. se rend compte en ce moment-là, par exemple le Boléro de Ravel, mmh. c'est clair que c'est quelque chose que tout le monde a déjà entendu
oui.
et du coup, voilà, on aime bien en plus de le voir faire par des clowns, et qu'est-ce qu'eux, ils vont faire à partir de ça. Et je pense que c'est ça aussi la force de faire de la musique classique en tant que clown, c'est
mmh.
que c'est qu'on a... On peut surprendre,
mmh.
parce qu'on n'a pas cette... habitude là.
Et prenez-vous des libertés avec les partitions
dans les musiques?
Oui.
Oui, tout à fait. On a fait des arrangements déjà un peu improbables sur certains morceaux. Donc, par exemple, notamment le Boléro de Ravel,
oui,
Castagnette, bah... tuba, c'est pas forcément ce qu'on a déjà entendu.
Bah, oui, aussi.
Et puis, bien sûr, oui, on a écrit, on a arrangé beaucoup en fonction de nos actions et
mm-hmm.
de ce qui se passe dans le spectacle, tout à fait.
Mm-hmm. D'accord. Pardon, excusez-moi. Donc, vous proposez ce voyage dans le monde de la musique et dans le monde clownesque avec maintes approches, puisque savoir avec le mime, la danse, l'acrobatie, c'est bien cela, j'ai bien compris.
Tout à fait, oui. Oui, c'est un spectacle, je pense, qui peut vraiment...
Parler à différentes personnes de différentes manières, dirons-nous.
Tout à fait.
En fonction de leur vécu.
On s'adresse mmh. à un tout public. Et mmh. puis je pense que moi j'aime bien même dire que ça s'adresse à tout être humain
mmh.
et n'importe d'où il vient et quelle langue il parle et quelle éducation il a eue. Je pense que chacun va pouvoir justement s'y retrouver dans ce spectacle mmh. par différentes portes.
Mmh. Mmh. D'accord. Et est-ce que vous évoluez dans un décor ou sur un plateau nu?
Alors le plateau, on est très, c'est un plateau très très épuré.
Mm-hmm.
En fait, nous quelque part on reconstruit un peu un opéra, donc on a juste un rideau rouge et
oui.
un énorme lustre.
Mmh.
Et après, on a chacun nos instruments. Voilà.
Mmh.
Les instruments, c'est forcément... il y a beaucoup de présence par les instruments.
Oui, bien sûr.
Mais
oui.
C'est vraiment un travail qui est basé sur... qui n'est pas basé sur un décor en soi,
mm-hmm.
même si après ça apporte,
mm-hmm.
je pense que ça apporte aussi un imaginaire, vraiment cet imaginaire de l'opéra,
mm-hmm.
d'un monde classique de velours rouge.
Mm-hmm. Oui.
Et que là-dedans, voilà, les clowns, ils décalent, et puis pas que, je pense qu'il y a aussi un endroit où ils sont tout à fait à leur place,
mm-hmm.
Notamment quand on pense au début du siècle où les clowns, en fait, ils jouaient dans le music hall.
Oui, effectivement. Oui.
Ils avaient accès à plein de différents endroits.
Mm-hmm. Et vous parliez du rideau rouge, vous avez une robe rouge aussi.
Oui, on a tout un... Donc voilà, après, pour faire de l'action, il faut bien sûr après de la matière quand même. Donc on a pas mal de jeux avec des costumes.
Mm-hmm.
Et notamment, il y a cette passion que j'ai pour la couleur rouge,
mm-hmm.
et les robes et les,
mm-hmm.
et les transformations.
Les grandes robes.
Qui fait partie. On a aussi des roses qui... Voilà, ça, c'est des petites histoires, des sous-histoires hein, dans l'histoire, mais,
mm-hmm.
mais qui fait bien sûr aussi allusion au monde de la musique classique,
mm-hmm.
de la rose qui s'offre, et
oui.
à l'amour.
Mm-hmm.
Et je pense que c'est un spectacle qui a beaucoup... qui tourne beaucoup autour de l'amour, notamment l'amour que le clown il veut avoir du public.
Qu'il cherche.
Je pense que, qu'il mm-hmm. cherche, parce mm-hmm. que je pense que oui, le clown, il est...
Il veut être aimé.
Toujours,
mm-hmm.
Il veut être aimé, il va tout faire pour recevoir de l'amour du public.
Mm-hmm.
Et puis, je pense qu'il y a aussi voilà, un amour entre deux clowns,
mm-hmm.
qui est une métaphore pour plein de... Pour l'amour entre les êtres humains.
Et... Mmh. Puisque là, en fait, puisque c'est un sacré compagnonnage, puisqu'il y a 10 ans que vous présentez, c'est ça ?
C'est ça, et ça fait 10 ans qu'on joue ce spectacle.
Et vous étiez rencontrés avant et vous aviez commencé l'aventure avant, c'est bien ça ?
Oui, on s'est rencontrés un petit peu avant, mais on a rapidement, on s'est très très rapidement tourné vers ce travail ensemble.
Mm-hmm.
Je pense que ça a été vraiment un lien entre nous
mm-hmm.
qui était fort et une envie évidente aussi d'aller dans ça.
Mm-hmm.
Et
puisque vous avez dit tout à l'heure que vous aviez la passion du rouge, vous pouvez nous en dire 2 mots ?
Bah, je pense que j'ai toujours aimé le rouge.
Mm-hmm.
Donc je pense que dans le clown il y a quand on développe du clown et quand on grandit avec, je pense qu'il y a quelque chose où plus ça va, plus on va vers ce que j'appelle un peu un nectar que chaque personne a en elle.
Mm-hmm.
Et des fois, ce n'est pas forcément explicable intellectuellement. C'est,
mm-hmm.
c'est une évidence que je choisirais une robe rouge. Et du coup, j'essaye de pousser là-dedans et d'aller plus loin et de,
mm-hmm.
et de développer avec.
Mm-hmm.
Après, je pense que le rouge, voilà, c'est moi, je pose très clairement ce rouge-là. Du coup, mon partenaire, il s'est positionné sans doute aussi par rapport à ça.
Mm-hmm.
Je pense que ça fait partie de notre hiérarchie aussi. C'est moi qui ai posé clairement le concerto de musique classique
oui.
Et Igor, il s'est positionné, puis il va trouver ses libertés là-dedans.
Mm-hmm.
Ses
repères, oui.
Mm-hmm. Et voilà, et puis il va être porté par ça. Et je pense que voilà, le rouge,
mm-hmm.
ça fait partie de...
C'est le fil rouge, c'est le cas de le dire.
Comment ?
C'est le fil rouge, c'est le cas de le dire.
Et voilà, tout à fait, c'est vrai. Oui, puis je pense que c'est toujours... c'est une couleur qui accompagne beaucoup de...
D'événements dans la vie. De,
tout à fait, voilà, entre l'amour, le sang,
la vie, oui. Mmh.
Les fleurs, voilà.
D'accord. Et les costumes, enfin, vous les faites vous-même, les robes, ou vous faites appel à une créatrice ou un créateur, d'ailleurs ?
Alors, on a fait appel à une créatrice pour une petite partie d'un costume, et sinon, c'est vrai que nous faisons nous-mêmes.
Vous bricolez avec, aussi les costumes, d'accord.
Voilà, avec de l'aide, après, de personnes qui qui nous conseillent. Mais c'est vrai que moi, je fais beaucoup de couture. Igor, il, par exemple, il fait beaucoup de soudure, il fait de la menuiserie.
Ah oui, d'accord,
je pense que
oui.
Ça fait partie. C'est un peu, ça fait partie aussi de cette vie de clown. Je pense qu'on est, très, très.
Vous savez tout faire, quoi.
On a besoin de savoir faire beaucoup de choses et on se forme là-dedans aussi parce que c'est un, justement, étant donné que c'est un chemin très long à, à développer, on a besoin de faire énormément d'allers-retours. Hein. Contrairement à une création que moi j'ai pu vivre en danse, par exemple, ou en théâtre, où on va prendre 3 mois, on prend un texte existant, par exemple, et puis on peut imaginer plein de choses dans sa tête, et
bien
puis
sûr.
On va faire un décor et ça va marcher, etc. Avec le clown, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que on peut rarement savoir qu'est-ce qui va se passer. On a besoin de ce retour du public pour savoir est-ce que ça va être bon, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va être drôle. Et des fois, c'est des choses qu'on s'imagine pas du tout qui vont faire une réaction et que du coup, quelque part, c'est notre obligation d'aller là-dedans, du coup. Et ça nous oblige à faire beaucoup d'allers-retours. On va faire une robe et on va essayer. Et puis après la représentation, on se rend compte, ah, mais là, ça marchait bien ça. Donc voilà, le soir, je me mets à la machine et je vais essayer autre chose.
Vous faites une reprise.
Voilà, et je pense qu'on a beaucoup... Pour nous, ce spectacle, d'ailleurs, il n'est pas du tout fini. On continue à créer, on continue à
le faire évoluer.
Toujours, et toujours avec ces allers-retours avec le public. Des fois, voilà, il faut prendre des fois une semaine dans un théâtre ou dans une salle pour chercher, pour aller plus loin. Mais après, il y a toujours besoin de ces allers-retours. Et c'est vrai autant pour les costumes que pour toute la matière dans ce spectacle. On a toujours fait nous-mêmes. On a fait nous-mêmes le lustre. On a fait nous-mêmes tout le décor. Pour pouvoir essayer et tout de suite réagir derrière et ajuster et continuer à évoluer avec.
D'accord. Et donc, il y aura des représentations au Centre culturel de Ramonville-Sainte-Anne du mardi 11 au vendredi 14 à 20h30. Et aussi, il y a une rencontre intitulée Discoserie sur la thématique des surprises dans la musique classique le mercredi 12 à 18h15 à la médiathèque. C'est vous qui l'animerez, enfin, tous les deux ?
Malheureusement, ce ne serait pas nous qui animons ça, parce que nous serons en préparation pour le spectacle.
D'accord.
Je pense que ça va être d'autres personnes sans doute très intéressantes qui vont discuter autour de ça et puis inviter le public évidemment à
poser des questions. Ah oui. D'accord. Vous avez autre chose à ajouter pour donner envie aux gens d'aller vous rencontrer, découvrir ce spectacle, Concerto pour deux clowns?
Moi, j'aime bien une citation d'André Suarez, qui est un poète du début du siècle, du début du XXe, et qui dit « L'art du clown va bien au-delà de ce qu'on pense. Il n'est ni tragique ni comique. Il est le miroir comique de la tragédie et le miroir tragique de la comédie. » Et j'aime beaucoup cette citation parce que je pense que justement, le clown, souvent, est un peu... formaté dans un registre qu'on croit
figé.
Et je pense que cette citation, voilà, ça invite à s'ouvrir à cet art du clown qui pour moi est vraiment essentiel et profondément humain.
Oui, parce qu'il y a maintes approches d'aborder le monde des clowns. Il y a de multiples facettes.
Tout à fait, oui, bien sûr, oui. Il y a le clown justement qui vient plus du théâtre, qui est un clown plus un personnage au service d'une écriture théâtrale. Il y a le clown du cirque pur et dur. Il y a le clown de la rue qui peut exister facilement en rue parce que dans la rue, forcément, il n'y a pas de quatrième mur. Et puis, il y a eu toute une histoire de clown, notamment au début du siècle, où le clown est entré dans un monde de musical, dans un monde de musique classique. D'ailleurs, déjà avec, par exemple, Grock, qui s'est fait accompagner par des orchestres philharmoniques. Donc oui, il y a moult courants de clowns à découvrir.
Mais c'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter. Et donc, j'invite toutes les personnes curieuses à aller découvrir votre spectacle la semaine prochaine. En plus, là, c'est vraiment du luxe, ce qui est assez rare à Ramonville. Il y a 4 soirées de représentation, du mardi au vendredi inclus à 20h30. Merci infiniment.
Merci à vous, merci beaucoup d'avoir pris
le temps
pour nous. Au revoir, bonne journée.
Warzim, boule de feu.
Quel est le morceau que nous voulons d'entendre?
Oui.
C'est un morceau d'un festival local.
D'accord.
Il faut que je récupère le CD pour te répondre.
D'accord. Donc, il y a Béatrice au téléphone, si je comprends bien.
Oui, je crois.
Oui. Donc, au téléphone, Béatrice Arias, qui va proposer ce soir à La Part du Hasard, qui est un café culturel, rue Saint-Charles, dans le quartier Arnaud-Bernard, à 20h, un récital poétique avec des poèmes de Alfred de Musset et de Marie-Rena Rickel. Le tout sous un fond musical qu'elle nous fera découvrir, en fait, dont elle nous parlera plus exactement. Et il y avait déjà eu deux créations dans un tout petit théâtre et ensuite un appartement. Et là, donc, ce soir, c'est à La Part du Hasard. Et là, je vous écoute pour un poème.
Alors, un poème de Rainer Maria Rilke qui suit. Amis silencieux des nombreux lointains, sans ton souffle encore accroître l'espace. Dans la charpente obscure des clochers, fais-toi retentir. Ce qui vit de toi, cette nourriture en fait une force. La métamorphose entre en elle et sort. Quelle est la plus douloureuse expérience? Boire est-il amer pour toi? Fais-toi vin. Dans cette nuit de démesure, sois magique puissance où tes sens se croisent. De leur rencontre étrange, sois le sens. Et si tu es oublié du terrestre, à la terre immobile, dis, je coule. À l'eau, dans sa hâte, parle, je suis. Voilà.
Merci beaucoup, c'est très gentil de dire un poème au téléphone. Donc je précise que vous êtes comédienne, pas que, mais là nous allons nous consacrer à la partie femme de théâtre, si je puis dire. Et donc, comment avez-vous né cette idée de créer un récital poétique?
Alors comment, pour tout dire, la poésie m'accompagne.
Oui, j'imagine,
toujours.
Oui.
Ça c'est quelque chose d'absolument certain. Et puis Musset, Alfred de Musset et surtout Rainer Maria Rilke sont vraiment des poètes qui me touchent.
Que vous affectionnez particulièrement.
Très fort. Et pourquoi alors, est-ce que c'est toujours une histoire du présent avec la poésie. Et il est vrai qu'avec ce que nous traversons aujourd'hui, même si moi j'avais commencé cette création il y a un an maintenant, mais ça a dû se pressentir.
Voilà ce que j'allais dire.
La réalité de ce que l'on vit. Et je me dirais aujourd'hui proclamer ces mots-là à travers la poésie au nom de ce qui se passe, au nom de cette violence qui se déploie, au nom de cet abcès qui explose. Il y a un ras-le-bol général. Et comment dire, eh bien, personnellement, moi, je lève mon poing ou je lève mes armes avec la poésie. C'est une force certainement de l'ordre de l'invisible, mais toujours est-il que ça a un impact pour sûr. Et on peut agir énormément avec les mots.
Bien sûr,
on peut faire beaucoup de mal avec les mots.
Les mots peuvent être des armes, des fois.
Exactement, exactement. Les mots peuvent être très très violents, mais on peut aussi utiliser les mots de façon lumineuse
bien
et
sûr.
Pour tirer vers le haut. Et pour moi, Rilke est vraiment le poète en première place pour ce type de revendication. Il parle essentiellement de l'humain, de ce où est-ce qu'il en est, quelle est sa puissance. Il lui conseille toujours d'aller la puiser, d'aller la chercher. Cela demande du courage. Cela demande de la persévérance, une énorme écoute à tout ce qui nous entoure. Malgré le chaos, malgré l'obscur, la lumière est là en permanence. Bon, alors ce ne sont que des mots,
bien
en
sûr.
Effet, mais pour moi c'est absolument essentiel. Voilà.
Et puis ce sont ces mots, mais des mots partagés, dont c'est une rencontre dans un lieu donné, dont c'est important aussi de se retrouver autour des mots, des mots
c'est
des poètes.
Oui, oui. Cela demande automatiquement voilà, ça va exiger une petite présence particulière. Et c'est cette invitation.
Une écoute aussi particulière.
Voilà, voilà, qui est importante. Parce que du coup, la personne, elle va se retrouver donc dans cette écoute, dont elle n'aura peut-être pas l'habitude, mais c'est un essai et c'est tellement ouvert qu'automatiquement, il y a des réponses très bénéfiques. Voilà.
Pouvez-vous nous dire comment vous avez eu envie de faire ce croisé, même si vous l'avez dit un peu, parce que c'était deux poètes dont vous appréciez la poésie. Comment vous les faites-vous se rencontrer au cours de ce récital et comment avez-vous fait le montage, en fonction de quels critères?
Alors, déjà, je pourrais dire que c'est l'amour qui réunit ces deux poètes.
Oui.
L'amour dans une direction un peu différente l'un et l'autre, mm-hmm. mais ils parlent tous les deux mm-hmm. de l'amour. Alors, du côté de Musset, ça va être l'amour-passion.
Oui.
qui est comme une étape, il le dit, une étape nécessaire et obligatoire, il dirait, mm-hmm. Au chemin initiatique de l'homme. Mm. Pour lui, c'est seulement la passion qui va lui faire connaître sa profondeur d'être humain, son authenticité. Mm-hmm. Voilà, ça c'est le chemin de Musset.
Musset.
Et celui de Rilke, il parle d'amour également, mais cela va être dans une dimension plus spirituelle. Mm-hmm. Même si Musset également, mais Rilke particulièrement. Et Rilke aussi allie la vie et la mort étroitement liées. Mm. Nous le savons, mais Rilke, il met vraiment cela en avant. Et moi, j'ajoute, la vie et la mort étroitement liées à l'invisible profondeur des choses. Rilke parle de la mort comme de la vie. Mm-hmm. Il parle de la vie comme de la mort. Donc c'est là que c'est très intéressant. Parce que justement, les ponts qu'il y a entre les deux sont très sensibles, très subtils. Mm-hmm. Et c'est une riche leçon voilà, qu'il nous donne. Et pour le montage... j'affectionne tout particulièrement un compositeur italien
oui.
qui se nomme Ludovico Einaudi.
Qui est un compositeur contemporain, c'est bien ça.
Un compositeur contemporain, il a notamment créé la musique de... ça y est, je ne me souviens pas du titre. Et là, j'ai un gros bug, un film français qui a eu un gros succès. Je ne m'en souviens pas, je suis désolée. Toujours est-il que pour les curieux, qu'ils aillent voir Ludovico, mmh. comme ça se prononce,
oui, oui. Mmh.
Einaudi, E-I-N-A-U-D-I.
Oui, oui.
Il a donc composé beaucoup de musique de film, mmh. mais il a aussi ses propres compositions. Et du coup, toutes les musiques de ma lecture sont celles de Einaudi. Mmh. Et je suis seule en scène avec mon ordinateur. Voilà.
Oui.
Donc, c'est un espace intime auquel j'invite... mes auditeurs et mon public, voilà.
Et là aussi, au niveau musical, c'est aussi une forme de montage aussi, je suppose.
Oui, montage, et du coup, ça se transforme en partition musicale, mm-hmm. réellement, avec les mots. Les mm-hmm. mots deviennent les notes de musique, mm-hmm. à certains moments, pas mm-hmm. à d'autres.
Oui, ça aide à faire mieux résonner les mots, à les faire mieux entendre.
Également, tout à fait juste. C'est cela, mm-hmm. c'est cela. Puisque les mots, par eux-mêmes, transportent une musique.
Bien sûr, oui.
Mm-hmm. Du coup, la musique là, de ce compositeur devient partenaire, mm-hmm. vraiment partenaire des mots. Mm-hmm.
C'est l'écrin, en quelque sorte.
Un écrin,
oui.
Oui, c'est joli, mm-hmm. tout à fait. C'est très poétique. Mm-hmm. C'est cela. Je vous invite à un écrin, à partager ensemble.
D'accord. Donc, c'est dans un petit lieu, hein, la part du hasard, dont ces oui. deux jeunes femmes qui ont ouvert ce café culturel, en sachant qu'elles, bon, elles aiment beaucoup, elles sont la culture, enfin, elles sont intéressées, et puis elles aiment bien faire la cuisine aussi, donc elles ont, voilà, elles proposent les mets à déguster, si je puis dire,
oui.
et elles offrent une part de leur espace à des créateurs. Alors, il y a des fois des expositions photos,
oui.
de photos ou de peintures, et puis aussi, de temps en temps, il y a du spectacle vivant, et donc, ce sera le cas ce soir à 20h, c'est 20?
Oui, à 20h.
À 20h, oui.
Il vaut mieux à partir de 20h, oui.
Oui, d'accord. Et donc, il est possible donc, de se restaurer chez elles, ça, c'est leur, oui. comment dire... Ben leur façon de vivre actuellement.
Voilà,
et ensuite, concernant le spectacle, c'est au chapeau. Et ça, dont chacun donne ce qu'il pense être le plus
exactement.
Judicieux.
Exactement, au chapeau. C'est cela.
Mmh.
Oui, oui. C'est un petit lieu, mais avec deux jolis espaces.
Oui, oui.
Il y en a un qui va très bien s'adapter. Et puis, c'est vrai que dans mon... dans le concept de ma lecture, je réserve aussi une grande part d'improvisation et de liberté
oui.
à l'intérieur mmh. du cadre.
Et oui, bien sûr, oui.
Mmh. Donc, je me donne.
Mmh.
Et j'aime vraiment m'adapter au lieu.
Et oui, c'est important, oui.
Je suis.
Mmh.
Je fais vivre le lieu.
Mmh. Bien sûr, oui.
Le lieu, dans ses recoins, dans son ambiance, dans ses résonances.
Oui, vous le faites vivre d'une autre manière.
Voilà, exactement.
Et comment s'est fait la rencontre entre vous et les deux jeunes femmes qui s'occupent de la part du hasard?
Comment elle s'est faite? Alors, tout spontanément, l'on m'a conseillé ce lieu que je ne connaissais pas, à vrai dire. Et je m'y suis présentée un jour, une après-midi. Voilà, il y a eu rencontre autour d'un thé, un bel échange. Et puis, au bout de l'échange, ça a été très, très spontané, très limpide. Allez, on programme une date et voilà. Ça s'est fait très simplement.
Et donc, c'est au 6 rue Saint-Charles. Il n'y a pas de réservation, j'imagine. Il suffit d'arriver juste un peu avant 20h, quoi.
Exactement.
Ou même à partir de 19h, si les personnes ont l'intention de se restaurer.
C'est ouvert à partir de 18h30.
18h30, oui. D'accord.
Voilà.
Vous avez d'autres dates en vue tant que nous y sommes?
Alors, c'est la dernière date, elle n'est pas encore. C'est la dernière date de 2018.
Pour 2018, oui.
Oui, en espérant. Donc, et il y en aura d'autres, c'est sûr, pour 2019. Et dans le souhait très vif que 2019 nous porte dans de meilleures conditions.
Et la précédente avait eu lieu dans un appartement, donc c'est encore un autre dispositif.
C'est
ça. Comment l'avez-vous vécu?
Ah, alors écoutez, je vais même vous raconter une petite anecdote toute personnelle, mais bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ce jour-là, j'apprends le décès de ma mère, le matin du 23 novembre.
D'accord.
Et c'est étrange comme les choses se présentent, comme la vie nous, j'emploie le mot, veille sur nous. Ce matin-là, je me suis dit, bon, au-delà de, bien sûr, la tristesse et tout, voilà, je passe les mots propres à cet événement.
Bien sûr.
Cette date est là, et voilà. C'est absolument exceptionnellement merveilleux que cette lecture, avec son contenu, soit programmée. Ce sera donc en l'honneur de cette personne qui s'appelait Manuela.
D'accord.
Et donc cette soirée a été magique. Le lieu déjà très agréable, avec un grand salon, avec de belles couleurs, très chaleureuses, avec de très beaux tableaux de peintres contemporains.
Oui.
Je me suis installée, cette lecture a démarré. Il y avait donc quand même un public de 30 personnes.
Ce qui n'est pas mal, dans un appartement.
Pas mal du tout, dans un appartement. Et donc à la fin, seulement à la fin, vous comprenez bien, j'ai annoncé cet événement. Et vraiment, il y avait un ange, et j'oserais dire même plusieurs anges parmi nous, lors de cette soirée. Et c'était très émouvant. Vraiment, très très émouvant, puisque aussi l'idée de ces programmations en appartement, c'est de présenter suite à la lecture ou à la présentation, une petite auberge espagnole. Donc il y a eu un échange, et donc de vifs débats.
Une discussion, oui bien sûr.
Voilà, des discussions, et à proprement parler autour de la mort et de la vie dont parle Rilke, et du coup ça avait un poids et une
bien
et un
sûr
écho,
plus intense
très intense voilà.
Et est-ce que les personnes qui vous accueillaient sont vos amis ou ce sont des gens aussi que vous avez rencontrés comme ça et qui prêtent leur appartement comme ça des fois à des aventures artistiques?
Alors c'était déjà leur ils avaient déjà fait ce ils avaient déjà programmé voilà quelques artistes chez eux et je les ai rencontrés par hasard grâce à une amie qui les connaissait. Nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée et ça a été aussi très spontané. Et ça s'est programmé très vite.
Ils sont artistes eux-mêmes ou pas du tout?
Non, pas particulièrement.
Mais de temps en temps, ils ouvrent leur appartement pour ce genre de rencontre.
Voilà. La dame, quand même, a des élans, de création. Elle est quand même artiste dans l'âme, je crois qu'elle écrit. Elle écrit pas mal, elle propose des ateliers. Non, voilà, il y a quand même une ouverture d'esprit qui est là par rapport à ces propositions.
D'accord. Et la première fois, ça avait eu lieu dans un tout petit théâtre, dans un théâtre de poche, on peut dire.
Un petit théâtre de poche, oui, pour la création, c'était au début de l'été dernier.
Donc ce soir, c'est à 20h au 6 rue Saint-Charles. Bon, il faut y aller un petit peu avant. La salle n'est pas démesurément grande. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous prenez vos précautions pour être là à l'heure. Et donc peut-être nous allons nous quitter en écoutant second poème, peut-être?
Voilà, on fait cela, c'est très bien.
Et donc je vous dis au revoir maintenant.
Oui, merci Marie-Madeleine.
Au revoir, Béatrice.
Des cieux surabondants d'étoiles prodiguées mettent leur faste au-dessus de l'affliction. Au lieu de pleurer dans les oreillers, lève tes yeux pleins de larmes. C'est ici déjà, à partir de ton visage en pleurs, de ton visage qui s'achève, que l'univers impérieux commence et se propage, qui brisera, si c'est dans cette direction que tu te tresses, le courant. Personne, sauf toi, si soudain tu te mettais à lutter contre l'orientation puissante de ces astres vers toi. Respire. Respire l'obscur de la terre et de nouveau lève les yeux. De nouveau. Légère et sans visage, la profondeur d'en haut s'appuie sur toi. L'indifférent visage contenu dans la nuit prête au tien de l'espace. Merci et bonne journée à vous.
Merci, madame. Et puis, puisqu'on m'a demandé, on m'a posé une question à laquelle je n'ai pas pu répondre, ça y est, j'ai la réponse. La musique qui t'intriguait, c'est Out of the Road, qui a été publiée au festival de Fond Rock en 2007, les 25 et les 24 et les 25 août 2007, voilà, à Fond Rock. Et le groupe, c'était Electric Bazar et compagnie. Voilà, toutes les musiques ont été extraites de ce festival aujourd'hui. On retrouve Canal Sud 92.2. My woman, my money, don't